Je voulais surtout pas être trop en avance. Bonjour à tous, travailleuses, travailleurs, chers camarades, chers amis. Alors cette semaine a été marquée par le scandale des Paradise Papers. Les journalistes qui ont enquêté estiment l'évasion fiscale à 350 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Les ultra-riches, 0,01% de la population la plus riche, économiseraient ainsi un tiers de leurs impôts. Et pour le budget de la France, la perte est évaluée à 20 milliards. 20 milliards par an, évidemment. Alors non seulement la grande bourgeoisie amasse ses fortunes au travers de l'exploitation, en parasitant le travail de millions de salariés et de petites mains, mais elle rechigne à contribuer ne serait-ce qu'un minimum au fonctionnement de la société. Et que font les gouvernements face à cela? Eh bien, ils jouent la comédie. En 2009, Sarkozy avait annoncé la fin des paradis fiscaux. Depuis, il y a eu le scandale des LuxLeaks, celui des Panama Papers, la Suisse, Malte ont été épinglés. À chaque fois, les ministres de l'économie ont promis, juré qu'ils allaient agir, établir des listes noires et de nouvelles réglementations. Et ça continue. Les gouvernements aimeraient sûrement récupérer une partie de l'impôt qui leur échappe. Mais il n'est pas question pour eux de remettre en cause la liberté des capitalistes et de contrôler ce qu'ils font de leur argent. Macron ou Le Maire sont prêts à critiquer les grandes entreprises, surtout si elles sont étrangères, d'ailleurs. Apple, Facebook, Google. Mais jamais ils ne s'en prendront aux hommes en chair et en os qui sont derrière ces grands groupes et qui en profitent. Jamais ils ne s'en prendront à Dassault, à Peugeot ou à Bernard Arnault parce qu'ils font partie des leurs, parce que c'est leur classe sociale et qu'ils la défendent. La politique de Macron est d'ailleurs en train de transformer la France en un paradis fiscal pour les riches, en multipliant les crédits d'impôts au patronat et les exonérations de cotisations, en baissant les impôts sur le capital, en supprimant purement et simplement l'impôt sur la fortune, le gouvernement organise une évasion fiscale qui ne dit pas son nom. Autant dire qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement Macron ni sur quelque institution que ce soit pour faire la transparence sur la circulation des capitaux. Et combien de fois avons-nous découvert que les organismes et les contrôleurs censés faire la vérité étaient achetés par ceux qu'ils devaient contrôler? Ceux qui sont capables d'imposer un véritable contrôle, ce sont les travailleurs. C'est la majorité de la population qui ne participe pas à toutes ces combines parce qu'elle n'en a pas les moyens. Les travailleurs sont les seuls à n'avoir rien à cacher, les seuls à avoir intérêt à faire toute cette transparence. Si les salariés qui sont présents dans tous les rouages de la production, qui font tourner les agences bancaires, les bureaux d'avocats, pouvaient rendre publiques les informations dont ils disposent, eh bien il en serait fini de cette opacité et de tous ces scandales. Au lieu de cela, les gouvernements imposent le secret des affaires, en vertu du fait qu'il s'agirait d'argent privé et de propriété privée, rien ne peut être divulgué par les salariés. Mais prenez les 2 milliards de profits réalisés par Renault ou Peugeot l'année dernière. Prenez les milliards réalisés par Sanofi, Carrefour, Lactalis. D'où viennent-ils, si ce n'est le fruit du travail de centaines, de milliers, de centaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de techniciens ou d'ingénieurs. Cet argent qui est aspiré à un pôle a été non seulement produit par les salariés de ces grands groupes, mais il a été aussi par les salariés des entreprises sous-traitantes, par les travailleurs indépendants qui ont vendu leurs services. Et c'est vrai aussi pour les grandes fortunes. Les 500 personnes les plus riches en France possèdent 460 milliards d'euros. À 500 personnes, ils possèdent plus que le budget de l'État. Et cet argent n'a pas été gagné à la sueur de leur front. Il n'est pas le fruit de leurs heures supplémentaires durement gagnées et mises de côté. Il est le résultat de l'exploitation, du vol de dizaines, de centaines de milliers de salariés de par le monde, et cela sur plusieurs générations. Comme l'argent public, c'est aussi de l'argent obtenu collectivement. C'est aussi notre argent et nous avons notre mot à dire sur la façon de l'utiliser. Cet argent des profits, comme cet argent des paradis fiscaux, l'argent des grandes fortunes, doit aller aux embauches, aux augmentations de salaire, aux retraites et aux services publics. La politique de Macron va évidemment dans le sens opposé. Comme les gouvernements précédents, toute sa politique consiste à donner carte blanche à la bourgeoisie, à multiplier les cadeaux aux plus riches et au nom des déficits, à faire reculer les services publics. Au budget 2018, entre la quasi-disparition de l'impôt sur la fortune et la baisse de l'impôt sur le capital, il y a plus de 5 milliards de cadeaux pour les plus riches. Pour les classes populaires, c'est la hausse de la CSG de 1,7 point, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du forfait hospitalier, l'augmentation du paquet de cigarettes. Les APL ont baissé de 5 euros au 1er octobre, mais c'est de 50 à 60 euros par mois qu'ils devraient baisser dans les années à venir. Et puis, il y aura la suppression de 120 000 contrats aidés. Dans la fonction publique, les salaires seront gelés, le jour de carence rétabli et 120 000 postes seront supprimés sur le quinquennat. Après tout cela, le gouvernement assure que la grande majorité des classes populaires n'y perdra pas, parce que dans le même temps, il va supprimer pour beaucoup la taxe d'habitation et baisser des cotisations salariales. Ce sont des tours de passe-passe. Le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Nous paierons de mille façons la quasi-disparition de la taxe d'habitation. Parce que les municipalités augmenteront le prix des cantines, parce qu'elles réduiront l'accès aux équipements publics. Le gouvernement assure qu'il imposera aux HLM de baisser leurs loyers pour que les baisses des APL soient indolores. Mais ça aussi, ça nous retombera dessus. Parce que les bailleurs sociaux qui manquent déjà d'argent entretiendront encore moins bien leurs bâtiments et surtout parce qu'ils construiront moins. Quant à l'autre tour de passe-passe, la baisse des cotisations salariales, il est révoltant. La baisse des cotisations salariales va en effet augmenter le salaire net pour les plus bas salaires. Mais c'est une augmentation de salaire d'un genre très spécial. Parce que cette augmentation ne sera pas payée par votre patron, mais par votre grand-mère ou par votre grand-père. Comme Macron ne veut rien demander au grand patronat, eh bien il fait payer les retraités. Ce dernier a même expliqué que l'on peut demander aux retraités un effort de solidarité, parce que, je le cite, « les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes ». Autrement dit, soyez solidaires entre pauvres et laissez les riches s'enrichir sur votre dos. Eh bien, c'est avec ce genre de cynisme que Macron finira par mettre le feu aux poudres. Aujourd'hui, Macron croit pouvoir tourner la page des ordonnances de la loi travail. Et il s'attaque déjà à un autre chantier, celui du chômage. Mais ni le gouvernement ni le patronat n'ont gagné la partie. Le patronat peut tenter de renégocier les salaires, les primes, le temps de travail dans l'entreprise. Mais pour faire disparaître ainsi tout droit collectif des travailleurs, il ne suffit pas de signer un texte de loi. Encore faut-il l'imposer aux salariés des entreprises. Et ça, c'est d'abord et avant tout une question de rapport de force. Et ce qui est certain, c'est que la mobilisation contre les ordonnances travail a conforté les travailleurs opposés à ce démantèlement des droits collectifs. Elle n'a certes pas permis de faire reculer le gouvernement, mais elle a conforté la conviction que cette loi est un mauvais coup de plus, qu'elle ne créera pas d'emplois supplémentaires, qu'elle augmentera les dividendes, la rentabilité, les profits sur le dos des travailleurs. Eh bien, tout cela ne peut qu'aider les travailleurs qui seront confrontés à son application entreprise par entreprise à mener le combat. Mais il faut évidemment aussi se saisir de toutes les possibilités pour continuer de dénoncer la politique de Macron à l'échelle de toute la société. Le 16 novembre, une nouvelle journée de grève et de manifestation est appelée par la CGT. Eh bien, il faut répondre présent. Macron était l'homme de la finance et de la grande bourgeoisie quand il travaillait chez Rothschild. Il l'est aujourd'hui en tant que président de la République. Et ceux qui refusent son offensive contre les travailleurs doivent montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils sont toujours bien déterminés à continuer le combat. Macron est le représentant de la bourgeoisie. Il a son arrogance, son mépris de classe, et il en sera le serviteur zélé, il n'y a pas de doute. Mais l'offensive contre les travailleurs dépasse les choix d'un Macron, comme elle dépassait les choix d'un Hollande ou d'un Sarkozy. Cette offensive, elle est d'abord le fait de la bourgeoisie, du grand patronat, qui mène une lutte de classe acharnée contre le monde du travail pour accroître l'exploitation et son parasitisme sur l'économie. Cette guerre de classe est inscrite dans le système capitaliste lui-même. Et dans le contexte de crise économique, cette lutte de classe ne peut qu'être toujours plus acharnée. La bourgeoisie ne peut plus espérer accroître ses profits au travers de l'extension de ses marchés. Ils sont saturés, la concurrence est exacerbée. Elle ne peut les augmenter que dans le parasitisme croissant de la finance et au travers de l'aggravation de l'exploitation du monde ouvrier, l'aggravation des cadences. Les profits supplémentaires des entreprises du CAC 40, eh bien, vous pouvez être sûr qu'ils ont été pris sur les travailleurs, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail, sur leurs congés. Macron a été élu pour servir la bourgeoisie alors qu'elle est confrontée à la persistance de la crise de l'économie capitaliste et qu'elle mène une guerre à mort contre le monde du travail. Eh bien, dans ce contexte, il n'y a jamais eu et il ne peut pas y avoir d'état de grâce pour aucun président de la République. Aujourd'hui, certains travailleurs, des militants de gauche, pensent qu'on n'a finalement que ce que l'on mérite et que si Mélenchon, par exemple, avait été élu, on ne serait pas dans la même situation. Eh bien, si, on serait fondamentalement dans la même situation. On serait confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive de la bourgeoisie. Et le président Mélenchon accompagnerait cette offensive, comme Hollande, Jospin, Mitterrand l'ont accompagné en leur temps. Face à l'attaque de Macron et du grand patronat, beaucoup parmi nous ressentent le besoin d'une solution politique. Bien sûr, la réponse doit être politique. Mais la réédition d'une énième union de la gauche est contraire aux intérêts des travailleurs. Le gouvernement est le conseil d'administration de la bourgeoisie, disait Lénine. Et combien de fois l'avons-nous vérifié, y compris lorsque le gouvernement se prétendait de gauche? Nous l'avons vérifié avec Mitterrand, Jospin et Hollande. Et c'est leur politique qui a conduit à l'état de démoralisation et de désorientation où se trouve aujourd'hui le monde du travail. Il ne peut pas y avoir de bon gouvernement de gauche dans le cadre du système capitaliste. À partir du moment où le président gouverne en respectant la propriété privée du capital, en acceptant la loi du profit et de la concurrence, il se voue à servir les intérêts de cette classe bourgeoise. Tant que la bourgeoisie dominera la société et l'économie du haut de sa propriété, on nous amusera avec les élections et les changements de gouvernement, mais nous continuerons de subir sa dictature. Cela changera si les travailleurs arrachent le pouvoir à la bourgeoisie, s'ils mettent fin à la propriété privée des moyens de production, à la concurrence et à la loi aveugle du profit. Cela changera lorsque les travailleurs se porteront eux-mêmes à la direction des entreprises et de la société, comme cela s'est produit lors de périodes révolutionnaires, au moment de la Commune de Paris ou au moment de la Révolution russe. Le sort des opprimés ne peut changer qu'au travers d'une révolution, au travers d'une période où des millions de femmes et d'hommes décidés à ne plus subir agissent et se dépassent pour prendre collectivement leur sort en main. Dans la plupart des pays, ce sont les événements révolutionnaires qui ont marqué l'histoire, pas les noms des présidents ou les changements institutionnels que tout le monde a oubliés. Il y a eu la Révolution française de 1789. En 1848, toute l'Europe fut secouée par une vague révolutionnaire. En 1871, il y eut la Commune de Paris, la Révolution russe en 1917, qui entraîna dans son sillage révolutionnaire la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne, la Chine. En 1936, il y eut la Révolution espagnole, puis les soulèvements des peuples colonisés, avec entre autres les révoltes indochinoises, algériennes, cubaines, et j'en passe. Ce sont ces périodes qui ont fait l'histoire. C'est l'élan révolutionnaire, ce bouleversement des consciences qui transforme des millions de femmes et d'hommes et ouvre des perspectives à toute la société. C'est pour ce genre de période que nous militons. Et nous militons pour que les travailleurs qui portent en eux la possibilité de construire une société sans classe dominante, sans exploitation et sans frontières, puissent prendre la tête de cette révolution. Ce n'est pas une utopie. Nous fêtons cette année le centenaire de la révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et l'exercer pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Cette révolution a dégénéré et débouché sur une des pires dictatures du XXe siècle, la dictature stalinienne. Cela suffit aux anticommunistes pour assimiler la révolution et l'idéal communiste à la dictature de Staline. Mais au même moment, il y avait en Italie la dictature de Mussolini, celle de Hitler en Allemagne. Aux États-Unis, il y avait une répression féroce contre les travailleurs et jamais personne n'assimile celle-ci au capitalisme. Alors il ne faut pas marcher dans la réécriture de l'histoire. Les détracteurs de la révolution russe veulent nous faire croire que les idées de Marx et de Lénine sont inapplicables et dangereuses. Autrement dit, il n'y aurait rien à regarder de la révolution russe. Eh bien, nous pensons exactement le contraire. Cette révolution est une période dont les travailleurs du monde entier peuvent être fiers et qui ne peut que conforter ceux qui aspirent à changer le monde. Parce que ce sont bien les ouvriers et les paysans russes qui réussirent en février 1917, au bout de 5 jours d'insurrection, à renverser un rempart de l'absolutisme en Europe, la dynastie des Romanov, qui régnait depuis 3 siècles sur une véritable prison des peuples. C'est la révolution des ouvriers et des paysans qui imposa la paix, alors que ces grandes démocraties que sont la France et la Grande-Bretagne voulaient à tout prix poursuivre la guerre pour leurs buts impérialistes. Et avec le parti bolchevique, les ouvriers et les paysans russes réussirent à s'emparer du pouvoir et ils s'en servirent pour transformer la vie des plus pauvres. Au travers des soviets, des conseils, des délégués choisis dans les usines, dans les régiments et dans les villages, ils construisirent une démocratie ouvrière. Ils firent naître un pouvoir ouvrier où les généraux étaient tenus en respect par de simples soldats, où le paysan journalier faisait fonction de maire dans son village, où les ouvriers contrôlaient les décisions prises dans leur usine, réorganisaient la production et le travail en fonction des intérêts du plus grand nombre. Comme le raconte un journaliste américain témoin de ces événements, les soviets étaient composés non de politiciens bavards et ignorants, mais d'hommes qui connaissaient leur métier, de mineurs qui savaient ce qu'est une mine, de mécaniciens qui savaient ce qu'est une machine, de paysans qui savaient ce qu'est la terre, de soldats qui savaient ce qu'est la guerre, d'instituteurs qui savaient ce que sont les enfants. Et ces soviets, avec à leur tête les bolcheviks et Lénine, firent ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. Aussitôt nommé, le gouvernement soviétique publia les traités secrets avec les puissances impérialistes. Il décréta la réforme agraire la plus radicale qui soit, en abolissant immédiatement et sans aucune indemnité la propriété des propriétaires fonciers et en distribuant la terre aux paysans qui voulaient la cultiver. Il organisa le ravitaillement et la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il trouva un toit pour tous, en imposant aux familles bourgeoises de se serrer un peu et en transformant leurs hôtels particuliers en logements collectifs. Il donna la possibilité à tous les peuples qui étaient sous domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Et il donna aussi l'égalité des droits aux femmes. Il légalisa le divorce et il tenta de les libérer des tâches domestiques et d'associer les femmes à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Alors, même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, on ne peut pas effacer ce qui a été réalisé. La révolution russe est la preuve que les travailleurs sont capables de transformer la société comme aucune autre classe sociale n'est capable de le faire. En 1848, Marx commençait le manifeste du Parti communiste par la célèbre phrase « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Eh bien, la révolution russe a transformé le spectre en force bien réelle qui a ébranlé le monde et qui nous permet de dire aujourd'hui que oui, le pouvoir des travailleurs n'est pas une utopie. Que les travailleurs s'emparent du pouvoir économique et politique par en bas, en construisant leurs propres organes de contrôle et de pouvoir, voilà notre perspective. C'est cette conviction profonde qui nous sépare de la politique des partis réformistes que sont aujourd'hui le Parti communiste et la France insoumise de Mélenchon. Cette perspective nous distingue sur le long terme, mais elle nous différencie aussi au quotidien, dans la façon de tourner toute notre politique et nos efforts vers la classe ouvrière et vers les luttes qu'elle peut mener. À l'inverse des partis réformistes qui sont intégrés dans les institutions et dans la gestion du système et qui n'ont de cesse de se montrer responsables vis-à-vis de la bourgeoisie, nous n'avons aucun fil à la patte et nous sommes en mesure non seulement de soutenir inconditionnellement les travailleurs qui se battent sur la base de leurs intérêts de classe, mais nous sommes aussi pour qu'ils aillent au bout de toutes leurs possibilités. Nous ne craignons pas que les luttes ouvrières aillent trop loin, qu'elles empiètent sur la propriété privée ou qu'elles déclenchent l'affrontement général. Et nous militons pour que ces luttes soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes, pour qu'à chacune de leurs mobilisations, aussi minime soit-elle, les travailleurs, les grévistes qui sont mobilisés puissent discuter et décider eux-mêmes de leur action. Et cela aussi, c'est une différence que nous avons, en particulier avec le parti de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne se situe pas seulement dans le cadre du capitalisme. Ce n'est pas seulement un réformiste qui prétend pouvoir moraliser et humaniser le capitalisme. C'est aussi un politicien étranger à la classe ouvrière. Son problème n'est pas d'armer la classe ouvrière. Ce n'est pas de lui apprendre sa propre force et ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même. Eh bien, nous, c'est notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Le monde du travail est sans cesse rabaissé quand les patrons et la bourgeoisie sont mis sur un piédestal. À les entendre, ce sont eux, les patrons, qui donnent du travail aux salariés. Ce sont eux, les patrons, qui font vivre les travailleurs. Mais qui mouille sa chemise sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics? Qui s'esquinte la santé sur les chaînes de montage de l'agroalimentaire, de l'automobile? Qui se dévoue au chevet des malades, des anciens? Qui se lève à 4 heures du matin pour rejoindre les bataillons du nettoyage? Qui fait rouler les trains pour amener des millions de salariés au travail? Et en plus de faire tout le travail intellectuel et manuel, nous produisons aussi le profit exigé par le capital. Alors n'en déplaise à la bourgeoisie et derrière elle à la kyrielle de petits patrons arrogants et méprisants, c'est notre classe qui les fait vivre. Et c'est nous qui entretenons la petite frange d'ultra-riches qui compose justement le monde bourgeois. Et nous l'entretenons au premier sens du terme, parce que même dans leurs quartiers réservés, même dans les quartiers bourgeois, même dans les palaces, même sur les yachts de luxe, eh bien, ils ont besoin de leurs femmes de ménage, de leurs chauffeurs, de leurs cuisiniers, de leurs comptables. Collectivement, les travailleurs produisent toutes les richesses. Ils résolvent nombre de problèmes techniques. Mais parce qu'on leur met cela dans le crâne, dès le biberon, ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour diriger et qu'il faut bien des patrons pour cela. On nous ravage que pour faire fonctionner l'État, il faut avoir fait de bonnes études, appartenir aux élites, que certains seraient qualifiés pour diriger. Eh bien, il faut s'opposer à cette idée-là. Collectivement, les travailleurs sont tout à fait capables de diriger la société et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes et leurs larbins politiciens parce qu'au pouvoir, eux, ils ne seraient pas aveuglés par le profit individuel. Et il faut tout le culot d'un ex-banquier dont toute la classe sociale roule sur l'or et se vautre dans un luxe insolent pour accuser d'égoïsme ou de corporatisme les travailleurs quand ils revendiquent. Parce qu'au contraire de la bourgeoisie, quand les travailleurs défendent leurs intérêts, eh bien ils représentent ceux du plus grand nombre et ils représentent même l'avenir de l'humanité. Parce que, et je finirai là-dessus, l'enjeu du combat qui oppose le monde du travail à la bourgeoisie et au capitalisme dépasse la défense de nos intérêts matériels. Il n'y a pas que l'effondrement de l'économie et la montée de la pauvreté qui nous menacent. Il y a aussi les dérèglements écologiques, les menaces guerrières, le terrorisme. En réalité, la domination de l'argent et le capitalisme pourrissent tout. Ils désagrègent les rapports humains, ils détruisent la planète et menacent la survie de l'humanité. Alors oui, le combat des travailleurs qui n'ont rien à perdre que leur chaîne est le seul à offrir une issue à l'humanité. La classe ouvrière, les exploités, représentent une force sociale unique et irremplaçable. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, eh bien ils sont capables demain de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire, cette capacité de transformer et de reconstruire une société. Dans le passé, de grands partis ont défendu cette perspective. Aujourd'hui, il n'en existe plus. Eh bien, c'est ce parti que nous voulons reconstruire. Alors aidez-nous, si vous en êtes d'accord, à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes pour défendre autour de nous, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, cette perspective de transformer la société pour en créer une autre complètement différente, une société communiste.